Lizzie présente Patient Zéro, histoire inversée de la médecine, de Luc Perrineau, lu par André Marcon. Prologue. Longtemps, la médecine est restée fille de la philosophie et de l'anatomie. Tous les livres retraçant son histoire commencent par relater des concepts philosophiques des dysfonctionnements du corps humain. Les quatre humeurs à Rome, le yin et le yang en Chine, ou les trois énergies de l'Ayurveda en Inde. Puis viennent les lents progrès de la dissection et les fastidieux chemins de la physiologie. Mais ni les philosophes, ni les anatomistes n'ont fait progresser le soin, car l'essentiel de leur pensée et de leur pratique se déroulait loin des malades. Les théories et les diagnostics médicaux étaient alambiqués et flamboyants, mais le soin n'était jamais à la hauteur des discours savants. Jusqu'au XIXe siècle, le soin est resté intuitif et empirique, pratiqué par divers artisans n'ayant pas écrit de livres ni émis de théories. La médecine moderne est née de la rencontre effective entre médecins et malades. Les historiens n'en ont pas moins continué à narrer exclusivement l'histoire des médecins, de leurs méthodes, de leurs réflexions, en négligeant les malades. Pourtant, ceux qui ont offert obstinément et patiemment leur corps et leurs plaintes aux praticiens dans les hôpitaux de campagne, les séances cliniques, les salles d'examen ou les cabinets de consultation, ont largement contribué à écrire cette histoire. Nous ne pouvons pas rendre un hommage individuel aux centaines de soldats inconnus qui ont permis à Ambroise Paré de remplacer la cautérisation des membres amputés par la ligature des artères. Nous ne connaîtrons jamais les millions de morts des épidémies entre la première théorie de la contagion de Girolamo Fracastoro et la preuve microbienne de Louis Pasteur. Nul médecin ne tentera d'entreprendre un recensement des hystériques brûlées vives pour sorcellerie. Nous pouvons en revanche nous attacher aux rares patients dont l'histoire singulière ou l'identité ont survécu aux années et dont la contribution au progrès du soin a été aussi importante que celle de leur médecin, illustre ou non. Leurs troubles, leurs souffrances ou leurs maux réels ou imaginaires ont inauguré de nouveaux diagnostics et de nouveaux traitements, remis en cause certaines théories médicales, ouvert de nouvelles perspectives thérapeutiques, corrigé les errements des praticiens ou questionné leurs certitudes. Certains ont été des miraculés, d'autres des cobayes, voire des martyrs. Parfois des victimes de l'orgueil ou de la cupidité de ceux qui prétendaient les soigner. C'est pour tenter de leur rendre justice que j'ai voulu écrire ce livre. Ces chapitres déroulent une autre histoire de la médecine qui intervertit l'ordonnancement habituel des rôles où les fantassins et les anonymes prennent la place des mandarins et des héros. Ces histoires inversées forment au total une sorte de mise en roman d'une citation du médecin-philosophe Georges Canguilhem dans le normal et le pathologique. Si aujourd'hui la connaissance de la maladie par le médecin peut prévenir l'expérience de la maladie par le malade, c'est parce qu'autrefois, la seconde a suscité, a appelé la première. C'est donc bien toujours en droit, sinon actuellement en fait, parce qu'il y a des hommes qui se sentent malades qu'il y a une médecine, et non parce qu'il y a des médecins que les hommes apprennent d'eux leur maladie. En infectiologie, on nomme cas index ou patient zéro la personne considérée comme étant à l'origine d'une épidémie. Les enquêtes microbiologiques et virales, de plus en plus précises, permettent parfois de parvenir jusqu'à elle. Par exemple, dans le cas du SRAS en 2003 à Hong Kong, il n'a fallu que quelques mois de recherche pour remonter jusqu'au premier patient. Le terme de patient zéro a été consacré par l'usage. Il a été préféré à celui de patient numéro 1, car le premier patient n'est pas toujours un malade, particulièrement dans le domaine des maladies infectieuses, mais aussi dans d'autres situations comme nous le verrons. Cette première distinction entre patient et malade peut surprendre. Pourtant, plusieurs des récits à suivre permettront d'en vérifier la pertinence. Un malade est un individu qui éprouve physiquement les symptômes d'une maladie. Un patient est un sujet médical qui peut n'avoir jamais éprouvé le moindre symptôme. Pour le dire avec plus d'humour, il y a des épidémies de maladies et il y a des épidémies de diagnostics. Et je rajouterai, sans humour, qu'il n'y a pas toujours de corrélation ni de relation causale entre les deux. J'ai abusivement mais explicitement étendu cette notion de patient zéro à tous les domaines de la médecine, de la chirurgie, de la psychiatrie et de la pharmacologie. Parce que toutes les spécialités illustrent les chemins tortueux du diagnostic et du soin que sillonnent des malades, qui parfois s'ignorent, et des patients comptés trop souvent pour zéro, cette licence conceptuelle m'a permis d'inclure dans le même cadre de réflexion des cas extraordinairement divers. Louis, qui a confirmé une hypothèse, et Madame Mackay, qui en a inspiré 100. Marie et Gaëtan, qui ont provoqué des épidémies de maladies, et Auguste, qui a déclenché une épidémie de diagnostic. Hansa, qui a exercé la patience des généticiens, et Giovanni, qui en a activé les délires. Henrietta, qui a chamboulé la médecine, et Augustine, qui a tourneboulé un médecin. Phinéas, le miraculé malheureux, et Henri, le cobaye heureux. Grégor, l'innocente victime du lucre, et David, le martyr de la stupidité. Et d'autres encore qui ont permis de révéler des erreurs ou des vérités élémentaires, de nommer des maladies réelles ou virtuelles, d'ouvrir de grands chapitres de la science clinique ou d'en fermer définitivement d'autres. Certaines histoires sont célèbres, comme celle de Joseph Meister ou de Phineas Gage. D'autres sont oubliées, comme celle de Selma, Henrietta ou Timothy. Quelques patientes et patients n'étaient connus que par leurs initiales ou par un pseudonyme, respectueux du secret médical. Dans certains de ces cas, j'ai inventé un prénom pour les extraire de leur statut de faire-valoir et leur conférer une identité de patient. Dans tous ces récits romanesques, je me suis efforcé de me tenir au plus près de la réalité des faits, non pas tant par souci de vérité historique que parce qu'il aurait été bien difficile d'inventer des fictions plus extraordinaires. J'ai également respecté un ordre chronologique pour suivre le mieux possible l'histoire de la pensée médicale et de son environnement. Cependant, certaines de ces histoires ne durent que quelques mois. D'autres s'étalent sur toute une vie, d'autres encore se déroulent sur plusieurs générations comme celle des Pomarelli. Ma priorité a été de rendre hommage à ces patients dociles ou rebelles, crédules ou méfiants, qui ont contribué de façon notoire au progrès de la connaissance biomédicale. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de les utiliser, encore malgré eux, pour prolonger mes réflexions sur l'art médical et son dévoiement, sur le pouvoir envahissant du marché sanitaire. Anciens cobayes de la médecine, ils sont devenus les nouveaux cobayes de mon épistémologie du diagnostic et du soin. À travers eux, j'ai laissé libre cours à mes humeurs médicales en pointant certaines dérives de la médecine qui ont existé de tout temps et dont les appels incantatoires au respect de l'éthique n'ont toujours pas réussi à nous protéger. Ce livre représente en quelque sorte ma part du colibri dans cet interminable travail de vulgarisation que nécessitent les sujets médicaux mal compris, pervertis par l'affect ou dévoyés par le commerce. La découverte des cas ici traités a été pour le praticien que je suis une façon de regarder de l'autre côté du miroir. Le récit que j'en donne se veut en retour un remerciement à mes propres patients, eux qui m'ont tant appris et dont la confiance qu'ils m'ont accordée m'a toujours paru excessive en regard de mes connaissances et de celles de mes maîtres.